Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-François du site papapositif.fr et avec Claire Marceau de l'Atelier des émotions, nous allons aborder le sujet des caprices des enfants. Qu'est-ce que nous nommons caprice ? Comment réagir avec bienveillance lors d'une crise émotionnelle ? Quelles sont les astuces et les outils efficaces pour aider les enfants à réguler de mieux en mieux leurs émotions ? Nous répondons à toutes ces questions tout de suite.
Quand les enfants ne veulent pas faire ce qu'on leur demande ou quand ils ont une réaction un peu démesurée, c'est ça les caprices ?
Personnellement, j'en fais parfois en tant qu'adulte, si c'est ça.
Ok. Voilà. Moi aussi, je pense.
Je me roule par terre, je crie, je pleure.
C'est vrai ?
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les adultes ont une capacité cérébrale différente des enfants, forcément. Le cerveau arrive à maturité à 25 ans. Cerveau émotionnel, notamment.
Parce que tu as plus que 25 ans.
Un tout petit peu plus.
Et on est arrivés à maturité tous les deux, on devrait s'en sortir.
Et ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc tu sais où il se situe, montre-nous.
Ici.
Et ce cortex préfrontal, c'est celui qui met le plus de temps à se développer. Donc on l'a dit jusqu'à 25 ans. Et c'est lui qui va venir réguler les émotions. C'est ça.
Dis-moi c'est si ça, exactement. Tout à fait.
Or, les émotions, elles sont... Enfin, le cerveau émotionnel est tout de suite opérationnel, dès la naissance, en fait.
Exactement.
D'où les pleurs, d'où les, notamment les enfants qui ont les émotions à fleur de peau, parce que justement, ils n'ont pas les moyens de réguler ces émotions. En revenant sur le sujet du caprice, caprice, émotion, c'est quoi le lien entre les deux ?
Alors, un enfant, quand il fait un caprice, c'est souvent une réaction émotionnelle ou une émotion suite à un événement. Donc, par exemple...
Enfin, fait un caprice... Ce qu'on pense.
Ce qu'on dit être un caprice.
Voilà.
Voilà. C'est une réaction, en règle générale, de frustration ou alors une réaction de stress. Alors, on va peut-être différencier un petit peu les deux. La frustration, c'est lorsque je ne peux pas faire ce que je veux, quand on m'empêche de faire quelque chose ou que tout simplement, ce n'est pas possible. Là, ça va déclencher une frustration, une réaction de colère que l'on peut vivre aussi en tant qu'adulte. Sauf que nous sommes censés, je dis, être capables de le gérer. Ne pas faire une crise. Chez l'enfant, à ce moment-là, c'est le cerveau émotionnel qui prend toute la place. Et donc, effectivement, il va avoir une réaction assez importante de frustration qui va, du coup, déclencher chez l'adulte l'idée qu'il fait un caprice. C'est-à-dire qu'il va faire une crise pour obtenir ce qu'il veut. Voilà, donc c'est ça qui existe depuis très longtemps hein, dans notre définition des caprices. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous vous avons envie de discuter avec vous, cette notion de caprice. Alors, je vous disais, ça peut être soit une réaction de frustration, soit une réaction de stress. La réaction de stress, c'est lorsque un besoin n'est pas satisfait. Alors, à ce moment-là, le cerveau est sous stress et va déclencher une crise. Et c'est ce que l'on peut aussi interpréter comme un caprice, c'est-à-dire une intention qui serait volontaire de l'enfant de manipuler l'adulte en faisant une crise pour obtenir ce qu'il veut.
Donc, c'est pas le cas, on est bien d'accord. L'enfant n'est pas capable de nourrir l'intention de faire... volontairement une crise émotionnelle
tout à fait.
Pour arriver à des fins, donc arriver à ce que l'adulte fasse ce que l'enfant a envie. Donc en fait, il n'est pas à la recherche d'une toute-puissance, l'enfant.
Absolument pas. Il est simplement son corps et c'est simplement physiologique. Lorsqu'un besoin n'est pas satisfait, ça déclenche une crise et une réaction. Voilà. Donc c'est uniquement physiologique et c'est absolument pas intentionnel. Dans son cerveau, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est une interprétation que nous, les adultes, nous avons du comportement de l'enfant qui nous dérange parce qu'on ne sait pas comment gérer la situation, parce qu'il y a le regard des autres. Alors, en tant que parents, tout de suite, à partir du moment où des personnes nous regardent, nous avons peur qu'ils nous jugent comme des mauvais parents, comme si nous n'étions pas capables d'éduquer nos enfants correctement. Et donc ça, c'est une source de stress immense chez les parents. La plupart du temps, d'ailleurs, nous avons une réaction totalement différente quand l'enfant fait un caprice en public ou à la maison, en général, nous allons avoir des réactions totalement différentes.
Effectivement, donc la peur du jugement d'autrui, donc qui malheureusement est toujours présente, hein, parce qu'on entend pas mal de jugements d'interprétation autour de nous, donc on se dit qu'on est jugé à tout moment.
C'est ça.
Donc dès lors qu'on arrête de se dire on est jugé à tout moment, peut-être que des mots comme caprice ils vont disparaître de notre vocabulaire. Parce que finalement, on ne va pas prêter d'intention négative à quelqu'un qui est en face de nous,
exactement.
Ou on
ne
va pas penser que les personnes nous cherchent ou veulent nous causer du tort, etc.
Tout à fait.
On ne va pas être dans le jugement, on va être uniquement dans l'observation.
C'est
Et justement, si on reste dans l'observation, un enfant qui fait un caprice, donc qui subit du stress ou de l'émotion, qu'est-ce qui se passe physiquement pour lui? Comment on peut voir effectivement qu'il s'agit de ça et que l'enfant est complètement débordé?
Alors, ce qui va nous aider, c'est à la place d'interpréter et de dire « mon enfant me cherche, mon enfant fait un caprice, c'est un capricieux, etc. », eh bien, je vais vous inviter à plutôt observer et décrire exactement ce que l'enfant est en train de faire. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, quand j'ai demandé à mon enfant d'arrêter de regarder des dessins animés et de venir se préparer pour partir, alors, il a commencé à grogner, à crier, son corps était tout tendu, il s'est mis à taper des pieds, il s'est roulé par terre. Je décris, ça va me permettre de comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Et ensuite, je vais pouvoir opter pour plusieurs possibilités pour aider à l'enfant à gérer cette situation, donc pour aider à calmer son stress ou à l'aider à gérer sa frustration. Et on va pouvoir du coup utiliser des outils que nous avons ici sur cette table.
Donc, première idée, c'est j'arrête de poser une étiquette sur le comportement de mon enfant. Une étiquette en plus à connotation négative comme caprice.
Tout à fait.
Parce que même quand on se le dit entre adultes, tu fais encore, voilà, tu fais ton caprice, etc. On n'est pas, lorsqu'on emploie ce mot, on n'est pas là pour avoir une communication apaisée. C'est surtout pour dire, tu me cherches, arrête tes caprices, quoi.
C'est ça.
Donc tout de suite, on est dans une disposition d'esprit dominant-dominé, rapport de force.
C'est ça. Voilà. Donc un jeu de pouvoir.
C'est ça.
Exactement.
Donc caprice, autant l'oublier,
autant
le remplacer par besoin, par émotion.
Oui.
Et puis se dire, en tant que parent déjà, moi, qu'est-ce que je fais de mes émotions et de mes besoins? Parce que peut-être que le problème, il est aussi là. C'est-à-dire que moi, je ne les exprime pas, donc j'estime que mon enfant n'a pas à le faire.
Oui.
Donc je vais le qualifier de caprice. Donc ça me renvoie à ce que moi, mon accueil des émotions personnelles. D'où vient cette croyance négative sur les caprices?
Alors, certainement que pour la plupart d'entre nous, lorsque nous étions petits et que nous exprimions, comme je disais tout à l'heure, soit une frustration par rapport à une situation, je ne peux pas faire ce que je veux et je vis de la frustration, de la colère, ou alors lorsque nos besoins n'étaient pas satisfaits et que nous avions une réaction de stress, alors nos parents, les adultes autour de nous, disaient que nous faisions des caprices. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là pour nous? Eh bien, nous avons compris que c'était pas bien d'exprimer nos émotions, en particulier la colère. Et nous avons aussi appris à ne pas répondre à nos besoins. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant a ce type de réaction devant nous, une frustration ou une réaction de stress, alors nous nous sentons facilement démunis pour faire face à cette situation-là, pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant ou l'accompagner dans ses émotions, puisque ça vient réveiller chez nous ces émotions-là et ce stress qui n'a pas été accompagné et accueilli. Donc c'est un challenge pour nous, effectivement, adultes aujourd'hui, d'arriver à accompagner nos enfants lorsqu'ils ont ce type de réaction et éviter de leur mettre cette étiquette de caprice.
Ou capricieux, du coup.
Ou capricieux.
Parce que le problème des étiquettes, c'est que ça cristallise un état. Donc
exactement.
L'enfant va se comporter de plus en plus par rapport à l'étiquette qu'on a posée sur lui.
Tout à fait. D'ailleurs, peut-être que parmi vous ou parmi nous, peut-être déjà, nous avons cette image-là de nous. Je suis quelqu'un de capricieux. Je suis quelqu'un de colérique. Et donc, on se rend compte, quand on se dit ça de nous, qu'il n'y a finalement aucune porte ouverte au changement.
Plutôt porteur d'espoir, tout ça.
C'est ça, exactement.
Une émotion.
Sait que le cerveau est plastique jusqu'à la fin de la vie.
Neuroplasticité, effectivement.
Donc, nous allons pouvoir changer toutes ces habitudes par tout un tas d'outils et de travail personnel.
Donc, lorsqu'un enfant ressent une grosse émotion, on serait tenté d'appeler ça un caprice si on estime que son expression émotionnelle est dirigée contre nous, pour nous manipuler. Mais en réalité, il n'en est rien, puisque l'enfant ressent un stress, ressent une émotion, est frustré. Il n'a pas d'autre choix que de réagir comme il le fait.
Exactement.
Mais il peut aussi réagir par mimétisme.
Oui.
C'est-à-dire que s'il a un frère ou une sœur qui réagit d'une certaine manière lorsqu'il éprouve une émotion, ou alors si le frère ou la sœur sont un peu plus grands et ont quelques stratégies comme ça, alors pas forcément de manipulation, mais quelques stratégies pour arriver à certaines fins, on va dire, l'enfant plus petit, quand je dis plus petit, c'est avant 5 ans, va peut-être imiter, mais sans vraiment comprendre qu'il est en train de...
Et alors les enfants, même les grands, ce sont des habitudes qu'ils ont eues, puisqu'ils ont eu l'habitude de réagir d'une certaine façon face à la frustration ou à un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc, cette habitude perdure, puisque personne ne m'apprend comment faire autrement. Donc effectivement, le plus petit peut imiter ses frères et sœurs, mais il va aussi imiter ses parents. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons aussi notre façon à nous d'exprimer notre frustration et de gérer notre stress, que nous avons réussi à gérer du mieux que nous avons pu sans l'apprendre. Et donc, sans nous en rendre compte, nous transmettons cette façon-là de le gérer à nos enfants. Donc tous ensemble, en travaillant ensemble, les parents et les enfants, c'est ce que je propose à mon cabinet tout le temps, c'est comment est-ce qu'ensemble, on va utiliser des outils pour nous aider tous, et pas uniquement que les parents qui aident les enfants, mais tous ensemble, comment est-ce qu'on va pouvoir s'aider mutuellement. Et très souvent, j'ai eu des retours de parents qui me disent que ce sont les enfants, des fois, qui viennent leur tendre un outil pour arriver, quand ils voient que leur parent est sous stress ou est frustré. Donc voilà, nous sommes vraiment plutôt une équipe.
Ouais.
Hein, vraiment, pour moi, c'est ça qui est important.
Alors, il y a des situations qui pourraient venir contredire ce qu'on a avancé là jusqu'à présent. Par exemple, un enfant est en pleine crise émotionnelle. Il avait envie d'un jouet dans un magasin. Oui. Sa mère a dit non. Ou son père. Hein. L'enfant donc se roule par terre, crie. Donc évidemment, le parent est mal à l'aise. Lorsqu'il est comme ça, ben, nous adultes, on a tendance à réagir aussi sur un système d'attaque-défense.
C'est ça.
Et on serait tenté de crier, dire « arrête maintenant !» ou « stop !»
Oui.
L'enfant, parfois, s'arrête net quand c'est comme ça. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'il fait du cinéma ?
C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend effectivement très régulièrement. Quand un adulte est face à une tempête émotionnelle d'un enfant comme ça, ça va déclencher du stress parce qu'il a la sensation de perdre le contrôle. Et donc, il va réagir, comme tu le disais, sous forme d'attaque, en criant, en menaçant, etc. À ce moment-là, si l'enfant s'arrête net, c'est pas qu'il a compris, c'est qu'il va être figé. C'est-à-dire que ça va aussi déclencher du stress chez lui et il va se retrouver figé. Donc effectivement, nous avons l'impression à ce moment-là d'avoir repris le contrôle sur la situation et on se dit, mais finalement, il a très bien compris et donc il est bien capable de manipuler. En réalité, l'enfant est totalement figé. Et lorsque lorsque le temps va passer, au moment où l'enfant va se défiger, il va être de nouveau en proie aux tensions qu'il habitait lorsqu'il a fait cette crise. Et donc, il va peut-être s'agacer pour autre chose, taper son frère, sa sœur, le chien, le chat, le parent. Bref, avoir une réaction physique pour libérer de nouveau cette tension qui a été stoppée net au moment de la réaction de stress du parent.
Ça veut dire donc que l'émotion a commencé à monter.
Oui.
Elle était sur le point d'éclater là, dans le cadre de la colère.
Elle était en train de commencer à sortir, effectivement.
Et là, paf, une émotion de peur ou de stress qui va venir stopper l'expression de l'émotion de colère.
Exactement.
Mais elle est stoppée et enfouie.
C'est ça.
Elle n'est pas stoppée et disparue.
Non, il est figé. C'est comme si on met pause.
C'est ça.
Donc quand, quand la pause va s'arrêter et qu'on va remettre play, de nouveau l'enfant va être en proie à ces tensions. Alors effectivement, peut-être qu'il ne va pas de nouveau déclencher une crise vis-à-vis du parent parce qu'il aura peur, mais il risque probablement soit de déverser cette tension sur une autre personne, ça peut être son frère, sa sœur, ça peut être jeter quelque chose, lancer. Il va peut-être être grognon toute la journée parce que la tension ne pourra pas se libérer définitivement et donc ça va se libérer par petites bribes tout au long de la journée.
Donc plutôt de crier que de crier lorsqu'un enfant se roule par terre, bon déjà est-ce qu'il est capable de nous écouter ? À ce moment-là. Est-ce que lorsqu'il est en pleine crise, est-ce qu'il est capable de raisonner ?
Absolument pas, puisque c'est son cerveau émotionnel qui prend le dessus. Et donc son cerveau qui réfléchit, comme je dis, se débranche. Et donc il n'a absolument plus accès à la raison. Je donne souvent l'exemple aux adultes. Quand un adulte aussi vit une émotion, on a beau essayer de le raisonner, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, donc il faut d'abord avoir un contact avec l'enfant pour l'aider à calmer son émotion.
Et le garder en sécurité aussi.
Voilà. Et ensuite, lorsque son cerveau se sera rebranché, on pourra reparler de la situation, éventuellement chercher des solutions ensemble, comprendre ce qui s'est passé, lui permettre de comprendre ce qui s'est passé pour lui, etc.
Mais on le laisse, tout en prenant dans les bras, on le laisse exprimer son émotion jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Donc exactement. Il va pleurer, et jusqu'à la fin, par exemple, et dès qu'il a fini de pleurer, on sait que l'émotion sera finie. Elle sera peut-être épuisée, parce que c'est éprouvant pour le corps, mais voilà, en tout cas, son émotion sera passée. Et normalement, une émotion comme ça dure quelques secondes.
Alors une émotion naturelle adaptée à une situation, oui, c'est maximum 90 secondes. Quand ça dure, c'est plutôt une réaction de stress et c'est une décharge de tension. Et donc quand un enfant fait une crise comme ça, souvent la première réaction que l'on a, c'est calme-toi. Et en fait, c'est simplement son corps qui est en train de libérer des tensions, et c'est comme ça qu'il se calme. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait une grosse crise, l'enfant, souvent, il est très apaisé. Et c'est plutôt les adultes qui sont comme ça. Parce qu'on s'est senti démunis, peut-être on a eu honte aussi parce qu'il y a eu le regard des autres. Ça peut faire peur, une décharge de tension de la part d'un enfant. Des fois, ça peut durer longtemps, il se jette par terre, on a l'impression qu'il est possédé.
Et puis, on se sent impuissant.
On se sent complètement impuissant. Il y a aussi tous nos propres stress et nos propres émotions qui sont là et qui sont réveillées. Et donc, ça va déclencher énormément de stress à l'intérieur de nous. D'accord. Voilà, donc la première chose à faire, c'est calmer à la fois soi-même et l'enfant. Et donc, il y a une chose qui est imparable, c'est le contact physique qui va nous permettre de nous calmer, nous et l'enfant. Alors, si l'enfant n'est pas trop submergé, que c'est simplement une petite réaction, on peut lui proposer un verre d'eau. Boire un verre d'eau, nous aussi, ça va nous calmer. Ou un contact physique. Alors, la plupart des parents me disent, mais moi, quand il fait ça, il n'a pas du tout envie que je le prenne dans les bras. Il me dit non. Je leur dis toujours, votre enfant, quand il est sous stress, rappelez-vous qu'il a son cerveau qui est débranché, donc il crie non, ça ne veut pas forcément dire je ne veux pas. Donc vous pouvez quand même vous approcher, tenter de le contenir, et si vraiment c'est trop difficile, au moins rester à sa hauteur et parler d'une voix calme et tranquille pour l'aider à redescendre.
C'est important ce que tu dis là, rester à sa hauteur.
Oui.
Parce que lorsque, et on a tendance à le faire en tant qu'adulte, on est beaucoup plus grand effectivement que les enfants, c'est les prendre de haut.
Oui.
Et effectivement, ça ne contribue pas, alors on parlait du rapport de force, mais effectivement déjà, d'être plus grand, ça implique pas qu'on va avoir un rapport équilibré avec l'enfant. Donc déjà, se mettre à son niveau, c'est dire, on a une approche bienveillante, on va communiquer sereinement ensuite. Quoi. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je suis à ton niveau, je te regarde, je suis là, tu es en sécurité.
Et dans notre corps, ça donne aussi une information différente. Quand je suis au-dessus de l'autre, je suis en position dominante. Et physiologiquement, je vais forcément être plus dans l'attaque. Si je suis à la hauteur de l'enfant, même moi, essayez-le, testez pour voir comment vous vous sentez dans votre corps, la différence de ressenti quand vous êtes accroupi à côté de votre enfant ou assis à côté de lui par terre. C'est un tout autre ressenti dans le corps.
C'est bon, tu peux couper.
Et ça, moi, je vois avec ma fille ado, là, quand elle est en pleine... que tout va mal, et quand ça va mal, elle est dans l'attaque, et donc elle nous attaque. Enfin, elle nous attaque. Et quand je rentre dans sa chambre et que ça va pas, je sens, moi, ça... Et bien, je m'assois par terre à côté d'elle, je me mets même presque en dessous. Elle est sur son fauteuil, je m'assois par terre, et déjà... Mais même moi, et elle, quoi. Si je reste debout... J'ai envie de l'attaquer, tu vois.
Ah oui, forcément.
C'est vraiment...
Alors, on va passer aux applications pratiques.
Oui.
Premièrement, quels sont les choix que nous, adultes, avons pour accompagner au mieux une crise, la crise d'un enfant ? Sur le fait, c'est-à-dire que l'enfant est en train de faire une crise, je fais quoi ?
Ok. Alors, si moi, je sens que ça déclenche du stress chez moi, première chose, je m'occupe de gérer mon stress. Parce que si je suis stressée, je vais attaquer mon enfant... Je vais crier, je vais le taper, parce que ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Moi, ça m'est arrivé aussi de taper mes enfants quand j'étais sous stress. Hein. C'est vraiment une réaction d'attaque automatique que l'on a, même si on la regrette à chaque fois. Lorsque c'est notre cerveau émotionnel, notre système de stress qui est aux commandes, alors on ne peut rien faire sur le moment. Et c'est simplement une fois que notre cerveau s'est rebranché qu'après, on peut se dire « j'aurais aimé faire différemment ». Donc, première chose, calmer son propre stress. On peut boire un verre d'eau. Inspirer, prendre effectivement de l'air, faire de la cohérence cardiaque, utiliser des outils que l'on va s'entraîner à utiliser en amont, un peu comme un entraînement sportif pour arriver à calmer son stress. Et une fois que notre cerveau est rebranché, alors là on peut aider notre enfant, et donc soit en lui donnant du contact physique, du contact visuel, rester à côté, parler d'une voix douce, lui proposer un verre d'eau, lui proposer éventuellement de taper des pieds, de me montrer sur une image comment il se sent, sachant que voilà, l'enfant n'a pas accès à son cerveau qui réfléchit.
Dans un premier temps, effectivement.
Dans un premier temps.
Donc là, par exemple, effectivement, on peut lui dire montre-moi comment tu te sens là tout de suite.
Oui.
Sachant que ce genre d'outil, il est aussi utilisable tout au long de la vie de l'enfant, c'est-à-dire
exactement.
En fait, là, la crise a lieu. Mais avant ça, il y a un travail préparatoire à faire, bon, à la fois pour le parent
oui.
et pour l'enfant, et en l'occurrence, ben, en utilisant des roues des émotions ou des tableaux émotionnels que vous pouvez trouver sur le site. Ou alors apprendre avec lui effectivement de différentes manières, et il y en a quand même assez, il y en a de nombreuses de façons,
oui.
pouvoir par exemple réguler sa colère, serrer fort un doudou, par exemple d'ailleurs, demander un câlin, parce que des fois bah, l'enfant a besoin effectivement d'affection, de contact, et une crise peut se déclencher parce qu'il ne l'a pas demandé, parce qu'il n'a peut-être pas non plus le langage pour ça. Donc c'est bien pour lui de savoir que ben, tu peux aller demander un câlin ou faire un signe comme ça, un peu de complicité entre parents et enfants quand il a besoin de ça, ou d'attention. Donc, toucher un peu le poignet de la mère ou du père pour que du moins me dire j'ai besoin d'attention là maintenant, j'ai besoin que vous me regardiez. Donc ça c'est important. Écouter de la musique calme, ça aussi. Ou la fredonner, ça peut être aussi ça, c'est une sorte d'ancrage. Donc au calme à la maison, écouter de la musique de manière récurrente, une même musique comme ça qui sera synonyme de calme. Et ça, on peut se la refredonner lorsqu'on est sur le point d'avoir une crise, pas pendant la crise parce qu'il n'y a pas d'écoute possible, mais un peu avant, se dire voilà, tu viens de la musique, viens, on la chante ensemble, etc. Et donc ça peut effectivement rétablir l'équilibre. Bouger, tu le disais, ça passe beaucoup par le corps. Donc marcher, sauter, ça permet d'évacuer les tensions et de reprendre petit à petit le contrôle, notamment le cortex préfrontal qui va se reconnecter. Et l'amygdale donc du cerveau émotionnel va elle se calmer.
Tout à fait. C'est important ce que tu dis. En fait, ce que nous avons à faire et ce que nous avons comme pouvoir en tant que parents, c'est de donner à nos enfants ce que nous n'avons pas eu, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Nous n'avons pas appris, parce que nos parents ne le savaient pas non plus, comment gérer nos émotions, comment les reconnaître, comment les exprimer. Et donc c'est ce super pouvoir de parents que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre ça à nos enfants et apprendre avec eux. Donc effectivement, tous ces outils-là, on peut les utiliser, les apprendre en amont, en dehors des moments d'émotion, de stress et de crise, s'entraîner sous forme de jeu. Et ensuite, on peut les utiliser simplement, parfois, les rappeler en un seul mot au moment où une émotion se présente, où une réaction de stress arrive. Et donc, il y a énormément de choses, effectivement, à faire en amont. Et puis aussi, après la crise ou après l'émotion, pouvoir reparler de ce qui s'est passé. Et puis dire, ben voilà, tu vois, tu s'est passé telle chose pour toi, tu as utilisé tel outil, et maintenant tu vois, l'émotion est passée, parce que les émotions, ça passe, et elles sont utiles.
Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait pour l'enfant, mais on peut lui donner consistance et passer ça sous forme de jeu, notamment avec des poupées, où on va effectivement resimuler peut-être la crise qui a eu lieu dans le magasin, et demander à l'enfant, alors toi... d'après toi, de quoi avait besoin cet enfant-là qui a fait cette crise-là dans ton magasin? Qu'est-ce qu'il ressentait selon toi? Et lorsqu'on parle à la troisième personne, comme ça, l'enfant se dissocie de son expérience et est capable de poser des mots sur l'histoire qu'on est en train de lui raconter avec les jouets, et petit à petit, à se l'approprier, c'est-à-dire à acquérir du vocabulaire des émotions, etc. Et à comprendre ce qui se passe en lui, justement, en ayant pris un peu de distance par rapport à son expérience.
Exactement.
Une colère, par exemple, là-bas. C'est un dragon, quoi, par exemple, qui souffle fort. Donc, comment faire pour apaiser le dragon? Ben, effectivement, on va boire un verre d'eau qui va venir apaiser. Si, on va peut-être lui souffler dessus pour que, justement, il refroidisse, etc. Donc, vraiment, le jeu est une ressource intéressante pour le développement de l'intelligence émotionnelle des enfants. On va maintenant aborder les attitudes ou les méthodes qui ne sont pas forcément efficaces ou même pas du tout efficaces dans le cadre d'une crise émotionnelle d'un enfant. Donc, par quoi on commence?
Tout à fait. Alors, lorsqu'un enfant fait une crise, une réaction émotionnelle, ce que nous avons l'habitude de faire, alors on va le lister, on l'a dit tout à l'heure déjà, crier, menacer, si tu continues, on n'ira pas chez mamie, tu n'auras pas de sucette, etc.
Donc, chantage.
Voilà,
aussi.
Le chantage. Menacer, je pars sans toi. Nous avons tous eu ce genre de réaction vis-à-vis de nos enfants. Notre enfant a une crise dans le magasin, là, c'est la honte suprême, tout le monde nous regarde. Et donc, je pense que nous avons tous dit, en tout cas, moi, je me souviens très bien avoir dit « je pars sans toi ». Je me souviens très bien avoir dit aussi à une de mes filles « t'as qu'à choisir une autre maman ». Voilà, ce sont des réactions d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore aussi? On peut peut-être aussi dire à l'enfant…
J'ai jamais dit ça, moi, par contre. « T'as qu'à choisir une autre maman
». Moi, j'ai dit « puisque tu… » Voilà, je me sentais tellement pas capable de gérer la situation que j'ai donc dit à ma fille « tu as qu'à choisir une autre maman, regarde, il y en a d'autres là-bas ». Voilà. Quand on se sent complètement démuni, quand on a l'impression vraiment de perdre le contrôle, ce sont des réactions que nous avons, qui sont des réactions comme celles de nos enfants, c'est-à-dire des réactions automatiques, des réactions de stress. Et c'est pour cela qu'elles ne sont absolument pas efficaces, puisqu'elles vont déclencher encore plus de stress chez notre enfant. Et donc, bah, du coup, ça risque pas de calmer la crise de l'enfant.
Est-ce qu'on peut parler de réaction irrationnelle, dans le sens où nous-mêmes, on fait ce qu'on reproche à l'enfant, c'est-à-dire qu'on laisse parler le cerveau émotionnel au lieu de réguler ce cerveau émotionnel et raisonner grâce au cortex préfrontal.
Tout à fait.
En fait, ce qu'on veut, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on souhaiterait de l'enfant, c'est que son... C'est nous, ce qu'on n'arrive pas à faire dans ce cas-là, du coup.
Exactement.
C'est que son cerveau émotionnel s'apaise
et qu'il reprenne,
qu'il résonne quand on lui dit bah, « calme-toi », qu'il soit capable de se calmer, etc. etc. Donc, il faut d'abord leur montrer l'exemple, nous, en raisonnant et en calmant notre cerveau émotionnel.
C'est ça. Et donc, par exemple, quand on punit un enfant, et quand j'en parle avec les parents, les professionnels, bah, pourquoi est-ce qu'on punit un enfant ? Pour qu'il réfléchisse à son comportement. Sauf que quand il est puni, il est sous stress et donc il n'est certainement pas en train de réfléchir. Et je dis souvent en rigolant, est-ce que vous pensez vraiment que votre enfant, quand il est puni, qui est dans son coin comme ça et qui se dit, c'est vrai quand même, c'est pas trop bien ce que j'ai fait, je vais changer de comportement. Il n'est pas en train de se dire ça, soit il est encore plus en colère contre nous, soit il se dit qu'il est nul, soit il est figé, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, et donc là, il ne se passe strictement rien dans sa tête. Il est simplement en mode pause. Voilà. Donc ces réactions-là sont des réactions de stress et effectivement, nous avons tout intérêt à comprendre ce qui se passe pour nous, pour pouvoir aider notre enfant.
Donc crier, punir,
menacer,
taper, faire du chantage, taper,
on
évite.
Bah, en tout cas, ça n'apprend strictement rien à notre enfant, et ça va augmenter le stress chez lui, ça va rendre son amygdale cérébrale hyper réactive, probablement comme la nôtre, puisque nous faisons partie des générations qui n'avons pas étaient très peu écoutés parce que nos parents n'avaient pas ces informations. Donc nos amygdales cérébrales à nous sont probablement assez réactives et c'est probablement pour cette raison que nous avons ce type de réaction-là par rapport aux crises des enfants. C'est parce que nos amygdales sont du coup hyper réactivées très, très rapidement dès que...
Les amygdales, c'est là ? Non, c'est là.
Celle-ci. Voilà, c'était dans la tête. Exactement.
Nos c'est quoi ce film que tu viens de faire là ?
Alors, c'est, j'aime bien l'image du cerveau dans la main. Je crois que c'est Daniel Siegel
c'est
qui
ça.
L'a utilisé. Donc, quand je parle du cerveau qui réfléchit, c'est là, c'est le cortex préfrontal. Et lorsque notre enfant fait une crise, ce sont les amygdales cérébrales. C'est ce système-là qui prend le dessus. Et donc, le cerveau qui réfléchit se débranche. Donc, quand mon enfant fait une crise, il est comme ça. Moi, j'arrive en face... L'enfant fait une crise, ça déclenche du stress chez moi. Je suis aussi comme ça. Et donc là, on est en réaction, soit d'attaque, soit fuite, figement. Bref, c'est absolument pas dans cette position-là que l'on peut trouver des solutions et que l'on peut apprendre quelque chose. C'est impossible. Donc, si l'adulte gère son stress, il rebranche son cerveau et ensuite il peut aider son enfant à calmer son stress pour qu'il rebranche son cerveau. Et ensuite, on peut reparler de ce qui s'est passé.
Et là, on est connecté.
Exactement.
On est connecté de cortex préfrontal à cortex préfrontal.
Tout à fait.
Ok.
C'est ça.
On arrive à la dernière rubrique de ce podcast. On va vous présenter quelques outils donc qu'on vous a montré mais brièvement dans cette vidéo. Ou pas, parce que on a notamment les cahiers Filiosa. Mm-hmm. Comment tu les exploites, toi, du coup, comment tu les utilises ?
Eh bien, vous avez des outils à l'intérieur, à la fois pour comprendre comment se passent les émotions dans le corps, et puis comment les gérer. Donc, vous avez la roue des émotions... Donc celui-ci, c'est sur les émotions générales. Celui qui nous intéressera peut-être plus particulièrement aujourd'hui, c'est plutôt retour et colère et retour au calme. Vous avez des outils intéressants pour savoir justement comment calmer un stress et puis surtout différencier colère et stress.
Sinon, les petites poupées comme ça, ou les marionnettes, ou quoi que ce soit.
Les mobiles, n'importe quoi, que l'on peut utiliser pour rejouer une scène, effectivement, pour permettre à l'enfant de comprendre ce qui s'est passé. Et puis des supports qu'on peut trouver sur le site, sur ton site Papa Positive, tout un tas de supports pour nourrir l'intelligence émotionnelle de l'enfant et la nôtre en même temps, à la même occasion.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, avec tous ces outils et ce dont nous avons parlé aujourd'hui, alors, quelle réponse pouvons-nous apporter à cette question ? Est-ce que les enfants nous manipulent ?
Non.
Les enfants n'ont pas cette capacité-là de nous manipuler en faisant des soi-disant caprices. Ce sont simplement des réactions de stress dues à des besoins qui ne sont pas satisfaits ou alors des réactions de frustration par rapport à une situation pour laquelle ils ne sont pas d'accord. Et donc, ils ont une immaturité du cerveau qui va faire qu'ils n'ont pas la capacité de dire tout simplement « Tu sais, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis. » Ou bien là, j'ai trop sommeil, j'ai besoin de me reposer, ou j'ai très faim. Non, c'est quelque chose qui va se manifester de façon physique. Et c'est ça que nous avons, de ça dont nous avons parlé pendant tout ce podcast. Et nous espérons que ce podcast vous a apporté des outils. Donc je vais écrire la réponse, hein, c'est important. Non, les enfants ne font pas de caprices.
Merci pour votre écoute. Merci Claire.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ce podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner pour être informé du prochain épisode. Et nous vous disons à bientôt.